Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. On poursuit cette semaine notre série de rencontres faites au festival de photojournalisme Visa pour l'image. Il se déroule à Perpignan, dans le sud de la France. Aujourd'hui, vous allez entendre deux journalistes qui parcourent l'Afrique pour la raconter en photo. Leurs images sont notamment publiées dans le prestigieux magazine National Geographic. Le français Pascal Maître n'a cessé de parcourir le Sahel depuis une trentaine d'années. Sa dernière enquête montre, avec pudeur mais énormément de couleurs, les régions du nord du Mali et du nord du Niger où il continue de se rendre. Vous l'entendrez tout à l'heure, mais tout de suite, laissez-moi vous présenter le photojournaliste sud-africain Brent Stirton. Il a reçu à 11 reprises le World Press Photo. À Perpignan, il présente des photos de rangers, ces hommes et femmes qui luttent contre le braconnage à travers le continent africain. Un journaliste passionné et on ne peut plus déterminé.
Atelier@rfi.fr.
Je m'appelle Brent Stirton, je suis photographe pour Getty Images. Je travaille principalement pour le magazine National Geographic sur les questions de conservation de l'environnement.
Vous photographiez beaucoup, beaucoup l'Afrique. Est-il facile de raconter l'Afrique par la photo ?
Je pense que l'Afrique devient de plus en plus complexe. Par exemple, en ce moment, je commence à travailler sur la montée du fondamentalisme en Afrique et comment cela va affecter la protection de l'environnement. Et c'est compliqué, vous savez. En Afrique, mais comme à plein d'autres endroits, c'est dur de connaître la vérité sur une problématique à travers le continent. En même temps, je suis sud-africain, j'ai toujours travaillé en Afrique, et je dirais que je travaille sur l'Afrique plus que sur n'importe quel continent. Mais parfois, pour être honnête avec vous, je suis heureux de travailler ailleurs. Je dois m'échapper de certaines choses sur lesquelles je travaille. Vous entendez la même chose de la part des journalistes qui travaillent au Moyen-Orient, en Syrie. Ils disent souvent « J'en ai assez, je dois mettre tout ça de côté et aller ailleurs pour un temps ». Est-ce que c'est facile de faire des reportages en Afrique ? Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où ce soit facile. Je pense que plus tu penses en savoir sur un problème, plus tu es probablement ignorant. C'est quelque chose de bizarre. Mais en tant que journaliste, plus on suppose de choses, plus il y a de chances que notre reportage soit erroné.
Vous en avez parlé tout à l'heure, l'environnement. L'environnement revêt une importance croissante dans le photojournalisme, de plus en plus. Est-ce que c'est un sujet qui, pour vous, doit encore continuer de travailler et sur lequel vous réussissez à vous renouveler en permanence ?
Je pense que lorsqu'on travaille comme journaliste, on comprend que les drames humains sont cycliques. Donc il est probable que les thématiques que tu traites aujourd'hui, tu vas les recroiser. En tant que photographe, un des grands privilèges est de pouvoir construire son travail sur un thème en particulier. Parce qu'après un certain temps, tu commences à voir des schémas récurrents. À voir comment des images peuvent fonctionner ensemble pour rendre les histoires plus complètes. Je souffre aussi d'un déficit de l'attention. Je m'ennuie facilement, donc je suis toujours en train de travailler sur 4 ou 5 histoires en même temps. C'est vraiment comme ça que je travaille. Donc je travaille sur quelque chose et puis je vais bouger pour aller travailler sur autre chose. Et généralement, je finis une série de reportages à peu près en même temps. Mais ce sont des histoires qui vont s'être passées quasiment au même moment. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire ça. Je n'arrive pas à rester au même endroit plus de 4 semaines à la suite. En fait, 4 semaines, c'est la limite, d'après ma femme.
J'ai lu dernièrement que vous disiez ne pas être un militant, que vous êtes un journaliste, que vous ne vouliez pas perdre votre objectivité, mais continuer à raconter des histoires. Justement, quand on voit que cela s'accélère, que le réchauffement climatique s'emballe, que l'Amazonie brûle, etc., parfois, ne vous dites-vous pas que, eh bien, il faudrait aller plus loin et peut-être eh bien, faire plus que simplement raconter les histoires et laisser les gens se faire leur opinion.
Je fais des images, c'est mon travail. Mon travail est de rendre des informations sûres et vérifiables. Ensuite, j'espère que les gens qui les utilisent pour quelque chose de bien. Je rends mes images disponibles aux meilleures ONG et aux meilleurs groupes de pression. Mes actions vont de témoigner à des auditions au Congrès jusqu'à aider à lever des fonds pour des ONG qui n'ont aucun financement au milieu de nulle part. C'est ce que je pourrais faire. Mais vous savez, ce que j'ai découvert encore et encore, c'est qu'à l'ère d'Internet, si vous adoptez un certain regard, vous allez aliéner un côté ou un autre. Ça va arriver. Et je veux raconter des histoires de manière aussi complète que possible, parce que je sais que mon audience va être assez intelligente pour se faire sa propre opinion si je présente tous les faits. Parce que si vous ne donnez pas tous les faits, les gens vont le voir, particulièrement à l'ère des fake news, où les gens cooptent les nouvelles ou créent des fake news pour satisfaire leur agenda. Je suis vraiment obsédé par cette idée que je dois m'impliquer pour raconter la vérité du mieux que je peux. Je suis un peu vieux jeu par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas d'être le premier. Ce que je veux, c'est être exhaustif. Les longs formats journalistiques sont un art qui se meurt. Et le résultat, c'est que l'on devient de plus en plus stupide. J'ai le privilège de travailler pour le magazine National Geographic. Et même là, où on a de moins en moins de place et de budget, j'ai toujours plus de temps que la plupart de mes collègues. Donc je me sens vraiment responsable lorsque je fais mes reportages. Je dois vraiment faire mon boulot à fond, rendre compte des phénomènes de A à Z.
Vous pensez aussi que le photojournalisme est sous-estimé, que le monde, en fait, serait sans doute dans une situation bien pire sans le travail des photojournalistes. C'est bien cela ?
Je ne peux pas vraiment imaginer vivre dans un monde qui n'a pas d'enregistrement visuel. L'idée que l'on pourrait simplement laisser l'histoire se passer sans en garder la trace. L'idée que nous pourrions ne pas rassembler l'intelligence pour la montrer dans d'autres parties du monde à ceux qui ne sont pas là pour en faire l'expérience eux-mêmes. L'humanité est collective et nous avons besoin d'informations fiables et vérifiables. Sans ça, on ne peut pas prendre de décision. Vous pouvez voir ce qui se passe avec Trump à la Maison-Blanche, par exemple, où les gens voient les médias comme des ennemis, que les gens essaient d'utiliser des faits contre vous, des faits qu'ils vont fabriquer. Donc je pense que le journalisme n'a jamais été aussi important. Mais nous n'avons pas su expliquer son importance. Là-dessus, nous avons fait un boulot déplorable. Je pense que nous supposions jusqu'à un certain point que les gens comprenaient l'importance de ce que l'on fait. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est tragique. C'est un échec de notre part et de la part de nos dirigeants de ne pas avoir communiqué mieux là-dessus. C'est un échec incroyable quand on y pense. On est dans l'industrie de la communication, nous avons tous le sentiment que ce que l'on fait a de la valeur et est nécessaire pour que la société fonctionne, pour que la civilisation continue et progresse. Mais on est parti du principe que les gens comprenaient ce que nous faisions, mais c'est devenu évident qu'une partie des gens ne comprennent pas nécessairement. Mais c'est aussi parce qu'ils font face à un assaut des réseaux sociaux chaque jour et que les opinions ont triomphé sur les faits. Oui, au photojournalisme, au journalisme, à la bonne radio. Je suis fan de toute forme de journalisme sincère.
Et votre prochaine mission, où va-t-elle vous emmener ?
Je commence à m'intéresser à la montée du fondamentalisme en Afrique. Le groupe État islamique est de plus en plus actif sur ce continent. Et je veux essayer de travailler sur les conséquences pour la protection de l'environnement dans le futur.
Good luck for that. Bonne chance à vous et à bientôt, Brent Stirton.
Thanks very much for your time. It's nice to speak to you.
http://atelier.rfi.fr
Il y a des zones en Afrique subsaharienne où peu de journalistes occidentaux se rendent encore, notamment pour des raisons de sécurité. Le photographe français Pascal Maître continue pourtant à se rendre dans le nord du Mali ou dans le nord du Niger. Nous l'avons rencontré à Visa pour l'image.
Mon nom est Pascal Maître, je suis photographe. Je fais ce que l'on appelle du grand magazine, plutôt de la géopolitique, en partie sur l'Afrique. J'ai commencé ma carrière dans le groupe Jeune Afrique, d'où ma connaissance et un peu mon attachement à ce continent. Et là, j'expose à Visa un travail que j'ai fait sur le Sahel, qui pour moi est important. C'est une région que je connais depuis peut-être une trentaine d'années et que je vois tout doucement glisser et se désagréger. Donc j'ai convaincu le National Geographic de faire un travail assez en profondeur sur cette zone. Et qui est exposé ici à Visa.
Justement, il y a plein de thématiques qui s'affrontent ou qui sont en tout cas en place dans cette région du monde. À la fois, il y a la question de la pauvreté des gens, il y a la question de l'avancée du désert, il y a la question djihadiste, il y a la France qui mène aussi une guerre compliquée dans toute la bande sahélo-saharienne sur 5 pays. Comment réussissez-vous à en rendre compte par la photo ?
Alors, j'y suis allé dans la zone d'Agadez, la zone du Mali. Avant de commencer ce projet, j'y suis allé assez régulièrement. Agadez, j'ai dû y aller 3-4 fois dans les 3 dernières années. Donc j'ai pu, je connais vraiment très bien, j'ai couvert la rébellion Touareg et tout ça. Donc j'ai pu voir qu'est-ce que je pouvais construire. Et puis la partie malienne, je suis allé, avant de ce projet-là, je suis allé déjà une fois avec Barkhane. Et l'idée de départ que j'avais proposée au National Geographic, c'était un projet un peu plus vaste. J'avais intégré le lac Tchad et Boko Haram, mais ça faisait beaucoup de choses et ça devenait complexe. D'abord, le journal publie en général maximum 30 pages, donc pour rentrer tout ça, ça faisait des entrées différentes. Donc on a réduit sur la partie Niger-Mali, essentiellement quand même plus sur la partie Niger, parce que les Américains construisent une base à la sortie de l'Agadez, et évidemment, National Geographic étant un magazine américain, il y avait une raison aussi qu'on s'intéresse à cela. Donc moi, je l'ai construit sur plusieurs choses. Donc, vous parlez de l'avancée du désert. Effectivement, vous avez l'avancée du désert du côté Niger. Vous avez le fleuve Niger qui est en train de se fermer complètement avec les dunes qui tombent dans le fleuve. Le fleuve était déjà peu dragué, mais là, maintenant, avec cette partie qui est totalement insécure et totalement aux mains des djihadistes, hein, en dehors des points où il y a l'armée française, il n'est plus du tout entretenu. Donc là, c'est un autre problème d'environnement. Et j'avais inclus le lac Tchad parce que le lac Tchad a évidemment ce problème environnemental de réduction et Boko Haram. Donc j'ai essayé de le faire sur 3-4 niveaux, c'est-à-dire le niveau environnement, le niveau humain avec les migrants, parce que évidemment, même si l'État français et l'Europe a essayé de limiter la migration à partir d'Agadez en donnant 140 millions d'euros au gouvernement nigérien pour qu'il bloque les migrants à Agadez et pour faire finalement ce que reprochent les gens d'Agadez, c'est qu'ils disent on a mis la frontière de l'Europe à Agadez.
Vous essayez aussi de documenter les conflits intercommunautaires dans le centre du Mali, avec notamment des photos très fortes où on voit des chasseurs dogons de l'ethnie Bambara qui vont combattre des peuls ayant rejoint les islamistes. Et voilà, et ces dogons sont soutenus par le gouvernement de Bamako. Voilà. C'est facile de rendre compte de ça et de les approcher, ces groupes ?
Oui, c'est très compliqué de rendre. D'abord, c'est toujours la même chose, le reportage et particulièrement la photographie, parce que la photographie, il faut que vous soyez là. Donc si vous n'avez pas les contacts, si vous n'avez pas les relais, et l'avantage de l'âge, c'est qu'au fil des années, on a construit quand même des relations, des fixeurs et tout cela, qui vous donnent les accès. Après, j'ai eu assez de chance, c'est vrai que c'est une zone sur laquelle je travaillais beaucoup, mais je l'ai fait juste avant qu'il y ait eu les très très grands massacres. Donc je pense que le massacre des 65 peuls
à
Bossagou. Donc je pense que si j'étais venu après, je n'aurais pas absolument pas pu le faire.
Justement, votre exposition s'intitule Sahel en danger. Il y a ce mot-là, danger. La bande sahélo-saharienne actuellement, et notamment les pays dans lesquels vous êtes parti en reportage, au Mali, dans le nord du Niger, etc., ce sont des zones qui sont dangereuses, on peut le dire. Quel est votre secret, justement, ou comment faites-vous pour assurer vos arrières et ne pas risquer le pire?
Je pense que ça se construit, c'est-à-dire vous construisez des cercles de sécurité par les gens que vous connaissez. Je pense, pour moi, le plus délicat, c'était le centre du Mali. Parce que le Niger, je connais vraiment très très bien. J'avais une escorte quand je suis allé jusqu'à la frontière libyenne. Et j'y suis allé avec des Touaregs que je connais depuis 30 ans, avec qui j'ai couvert. Donc c'est les gens qui connaissent bien la zone, ça. Et évidemment, c'est aussi dangereux, parce que je pense un mois après, le chef militaire du Niger, qui contrôle toute cette zone, avec son escorte, a été tué par 14 véhicules qui les ont attaqués dans le même passage. Donc ça reste dangereux. Mais quand même, ça, je pouvais un peu plus maîtriser. Après, il faut faire très attention, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'on fait, ne pas rester trop longtemps. Et dans le centre du Mali, j'ai fait très attention, parce que là, vraiment, je pouvais pas le faire avec une escorte ni avec des militaires, parce qu'évidemment, les milices ne m'auraient pas donné accès, j'aurais pas pu avoir accès. Donc là, j'ai été assez prudent. Je suis allé juste faire quand j'avais un rendez-vous, j'allais, le reste du temps, je restais à l'hôtel. Je n'ai pas ce que je fais d'habitude, j'aime bien me balader, tout ça, dans la zone de Mopti que je connais bien. Je suis très peu sorti. Pour éviter d'être exposé, parce que évidemment, dans cette zone-là, qui est quand même... les islamistes sont à 5-6 km derrière Mopti. Djenné, ils sont à 10 km. Donc, vous êtes quand même
une cible
vraiment importante. Donc, après, les gens que vous connaissez, vous faites attention, vous allez faire ce que vous... Et puis, vous disparaissez, et il ne faut pas traîner, quoi. Il faut être prudent.
Avez-vous eu peur, parfois ?
Là, pas du tout. Parce que... comment dire ? J'ai bougé quand j'étais à peu près sûr des gens avec qui je le fais. Le plus délicat, c'est quand je suis allé voir les milices Bambara, qui, elles... Alors, j'ai trouvé un jeune gars qui m'avait dit « je peux t'aider » et tout, et je le connaissais pas très bien, je connaissais quelqu'un qui le connaissait très bien, donc ça c'était une sorte de garantie. Et après, quand on est parti, c'était en dehors de Djenné, à une quinzaine de kilomètres, et effectivement, la personne qui m'accompagnait savait plus le chemin, ça devenait un peu compliqué, et là, bon, l'inquiétude, c'est pas une peur, hein, mais vous dites « tiens, peut-être... que le gars est pas fiable et que ça craint un peu, quoi. » Et après, une fois que j'ai fait mes photos et je m'en vais. Faut pas traîner, quoi.
Est-ce qu'il y a des médias qui, justement, ne prennent pas votre travail parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose et d'en être, au moins pour partie, responsable ?
Alors, dans le cadre du National Geographic, ils ont une cellule sécurité. Donc, ça a été un peu compliqué de les convaincre. Parce qu'évidemment, maintenant, il y a sécurité, moi je suis un contrat quand je travaille pour eux, il y a assurance, plus personne maintenant veut prendre le risque qu'il y a un problème. Donc j'ai peiné à les convaincre, ça devient quand même plus compliqué.
Y a-t-il des spécificités à raconter en photo l'Afrique ?
Je pense pas. Non, je pense que c'est universel. C'est une approche humaine, c'est une approche de contact, c'est une approche de compréhension. Alors en Afrique, ça c'est très particulier. Je pense que c'est important de bien expliquer qu'est-ce que l'on veut faire. Parce qu'il y a toujours une certaine inquiétude, une certaine suspicion. Évidemment, il y a quand même eu, dans pas mal de pays africains, il y a eu beaucoup de mercenaires, beaucoup de types louches. Donc quand vous êtes blanc d'un certain âge, que vous traînez seul, ça pose des questions. Mais à partir du moment vous expliquez ce que vous faites, que les gens comprennent et surtout qu'ils identifient qui vous êtes et tout, ça désamorce pas mal de tensions.
Vous parcourez le monde pour faire des photos, mais prenez-vous aussi des photos en France et en vous intéressant peut-être à vos passions? On m'a dit que vous aimiez beaucoup le rugby.
Ouais, j'ai joué 18 ans, c'est ma passion. Non, je fais pas du tout de photos. C'est là où je sais que je suis plus journaliste que photographe. Et il m'arrive quelquefois des mésaventures, c'est-à-dire je rentre, je mets mon sac photo dans le placard, et des fois, la veille de partir, je dis « mince, j'aurais dû faire réparer ça ». C'est vraiment un outil. Et lorsque je fais un reportage, j'ai l'impression d'aller en plongée. C'est-à-dire, je vais commencer et je vais être pendant les 15 jours, 3 semaines, dedans à fond. Mais quand je sors, je passe à autre chose.
Vous mettez en immersion et c'est votre appareil photo qui vous permet d'aller à la rencontre de gens, c'est cela ?
Non. Oui. Oui, dans le sens, sans ça, je ne le ferais pas comme ça. J'ai une raison d'être. Comme je travaille assez souvent dans des zones difficiles où la vie des gens n'est pas très drôle et tout, j'irais pas me balader si je n'avais pas une raison de le faire.
Et exposer toutes ces photos et cette diversité de sujets à Visa pour l'image à Perpignan, c'est une consécration ?
Oui, oui, c'est d'abord un immense plaisir. C'est ma 9e exposition à Perpignan, donc j'ai beaucoup exposé. Et puis, moi, ce qui me touche le plus à Perpignan, c'est le grand public. C'est-à-dire de voir les personnes venir, de voir encore là, c'est le début, c'est assez calme, mais ça va monter de plus en plus, et de voir les gens se mettre parfois en ligne derrière chaque photo pour lire les légendes, c'est extraordinaire.
Merci Pascal Maître.
Merci beaucoup et c'est un grand plaisir de parler à RFI.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Un grand merci à Simon De Creuse qui a réalisé l'émission que vous venez d'entendre et à Camille Sarrazin pour son coup de main pour traduire les propos de Brent Stirton. N'oubliez pas de partager cette émission que vous pouvez retrouver en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.
RFI. Musique.